Je pense, ça ne vous dit rien du tout, huitième dimanche après la Pentecôte, mais je veux parler de l'Évangile, qui est tellement redouté des commentateurs, celui de l'intendant malhonnête qui finalement est loué par son maître. C'est vrai que c'est quelque chose de très étonnant. Je vous ai offert l'an dernier une tentative d'exégèse de ce texte qui n'a pas convaincu tout le monde, mais pour la santé de tous, je remets à l'an prochain un commentaire de ce même Évangile. Cette année, pas de contorsion, pas de gymnastique des neurones, je vais me contenter sagement d'étudier plutôt l'Épître. Mais vous verrez que cette Épître n'est pas un simple lot de consolation et vous n'avez pas à relâcher votre attention, déçu de ne pas voir l'abbé faire sa gymnastique pour essayer d'expliquer l'inexplicable Évangile du jour. Dans l'Épître d'aujourd'hui, il n'y a rien d'insipide, tout est très solide, au contraire. Il s'agit de l'Épître aux Romains. Cette Épître aux Romains, c'est la dernière lettre de saint Paul qu'on a de sa main. C'est celle qu'il adressait à la communauté romaine lorsqu'il s'apprêtait à quitter Jérusalem pour aller vivre le martyr à Rome. C'est-à-dire que cette Épître est une synthèse de toute la pensée théologique paulinienne. Et dans le court extrait que nous avons aujourd'hui, l'Église nous propose un thème paulinien bien connu, celui de l'opposition entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. C'est une sorte de récapitulatif de ce que saint Paul n'a cessé, au fil de ses années d'apostolat, de prêcher. Vivre libre ou mourir. Vous savez qu'il y eut de très nombreuses personnes, il y eut des millions de personnes même, à mourir pour honorer cette devise, ce cri de guerre. Ils ont eu raison de le faire parce que l'aspiration la plus profonde de l'homme, c'est sans doute l'aspiration à la liberté. Encore faut-il savoir ce dont on parle lorsqu'on parle de liberté. Et ce texte de saint Paul, avec cette dialectique entre la chair et l'esprit, précisément nous permet d'approfondir un peu ce thème de la liberté. Il n'existe au fond, selon les dires de saint Paul, que deux types de liberté. Celle qui procède d'une vie selon la chair, c'est une liberté fallacieuse, ce n'est qu'une caricature de liberté qui mène en fait à la servitude, ou la liberté qui procède d'une vie par l'esprit et qui, elle, est une liberté authentique, la seule capable de combler l'aspiration humaine à la liberté. Avant d'examiner un peu plus avant ces deux types de liberté et de les comparer, je voudrais simplement faire une petite précision de terminologie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissaient bien ce dont je vais vous parler, mais il est utile de le rappeler, je crois. Il ne faut pas se méprendre sur ce que saint Paul appelle la chair et l'esprit. Il ne s'agit évidemment pas pour lui de recouvrir par l'opposition chair-esprit l'opposition corps-âme. Ce serait beaucoup trop facile. Saint Paul ne tombe pas dans cette dialectique dualiste entre une âme qui serait parfaitement bonne et qu'il faudrait suivre en tout, et un corps qui serait parfaitement mauvais et qu'il faudrait rejeter. Saint Paul, ce n'est pas Platon qui considère qu'à la fin de notre vie, notre pauvre âme quittera enfin la prison qu'a été le corps pendant toute la vie. Pas du tout. Saint Paul sait trop bien que Dieu est l'auteur du corps et de l'âme, que Dieu a créé le corps et l'âme bon initialement. Saint Paul sait trop bien que le siège du péché, ce n'est pas d'abord le corps ni les passions, le siège du péché, c'est l'âme, avec une intelligence dévoyée, avec une volonté perverse, qui décide le corps à faire le mal. Vous voyez donc qu'il n'y a pas du tout à considérer que cette opposition chair-esprit équivaut à l'opposition corps-âme. Alors qu'est-ce qu'on doit entendre par chair et par esprit ? Eh bien, la chair, c'est la nature humaine, corps et âme, encore une fois, qui est déchue. C'est la nature humaine telle que nous en avons hérité depuis que nos pauvres parents ont commis le péché originel. Vivre selon la chair, c'est donc pour l'homme vivre selon cette inclination pécheresse de sa nature native. Qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Vivre par l'esprit, c'est pour le chrétien jouir d'une nature rachetée, purifiée par la grâce du Saint-Esprit. C'est refuser de vivre selon l'inclination native de notre chair, de notre nature, corps et âme, pécheresse. C'est très simple, me direz-vous. Allons voir un peu plus avant. Dans ce bas monde, l'homme doit faire le choix entre deux camps, Tous les auteurs spirituels sont d'accord là-dessus. Il y a saint Paul qui évoque, je viens de vous le dire, abondamment la chair et l'esprit. Il y a saint Jean qui vous parle du monde, ou de la ténèbre et de la lumière. Il y a saint Augustin qui parle des deux cités, ou encore saint Ignace qui préfère parler des deux étendards. Il se trouve que nous sommes dans une situation contemporaine qui est avide de consensus et qui, voulant mêler chèvre et chou, refuse tous ces types de dialectique. Pour un contemporain, toute alternative entre deux termes est forcément réducteur, est forcément simpliste, binaire, est forcément dangereux. Effectivement, je concède à ces contemporains qu'il serait tout à fait ridicule, il serait même tout à fait dangereux de considérer que le monde se divise entre d'un côté les bons, qui sont très très bons, et d'un autre côté les méchants, qui sont très très méchants. Je suis d'accord avec eux pour considérer que l'enjeu n'est pas pour l'humanité un combat entre une élite de bons qui lancerait l'assaut contre l'immense cohorte des méchants. Ça, c'est la vision erronée des westerns, c'est la vision erronée des contes de chevalerie, c'est aussi celle que revendiquent tous les systèmes totalitaires. Il y a un méchant, très très méchant, qui ne pourra jamais devenir bon. Il faut l'éradiquer de la société avant qu'il ne contamine les gentils très très gentils. Cette vision binaire des choses, je la rejette au même titre que mes contemporains la rejettent. Un tel partage du monde est abusif et évidemment, il n'est utile bien souvent qu'à couvrir les intérêts de ceux qui se revendiquent les bons. Les Américains sont heureux de temps à autre d'aller, au nom de la justice, du bien, de l'empire, de Dieu et du bien, d'aller de temps à autre se servir dans les poches des moyens orientaux ou de l'Extrême-Orient même, au nom justement de cette vision binaire des choses. Mais je parle des Américains, je pourrais très bien parler de nous autres Français. Chacun de ces deux camps, celui de la chair et celui de l'esprit, en réalité, ce n'est pas dans le monde que nous le trouvons, c'est au cœur de notre propre personne. C'est en nous qu'existe cette dualité. Et là, oui, il faut qu'il y ait un combat. Et il faut qu'il y ait un combat sans merci. Là, on ne constitue effectivement pas de prisonniers. Vous voulez être des guerriers, mais soyez des guerriers à l'intérieur de vous-même. C'est ce que nous enseigne le Christ et ce que nous enseigne saint Paul. Chacun de ces deux camps prend l'homme par les sentiments, parce qu'il le flatte selon une de ses aspirations les plus profondes, je vous le disais tout à l'heure, l'aspiration à la liberté. Voyons un peu quelle est cette liberté à laquelle nous invite la vie selon la chair, et quelle est la liberté à laquelle nous invite la vie par l'esprit. La liberté selon la vie dans la chair, ou selon la chair, il y a, je crois, deux variantes de cette liberté en réalité, deux conceptions erronées de la liberté qui ne cessent de nous appeler telles les sirènes autour d'Ulysse. Soit on considère que l'homme est un simple animal instinctif, une machine à jouir, qui doit vivre au gré de ses sentiments, au gré de ses instincts justement. C'est un peu cette vision des choses que vous proposent les publicitaires quand ils essayent d'exciter vos passions. Et quand derrière des grands slogans, soyez libre, devenez libre, fumez une Marlboro, devenez libre, allez au Club Med, soyez libre, voilà, foutez le camp, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur une affiche, ça c'est vraiment un titre sexy, comme on dit en matière de publicité, Monsieur Bataille ne me défend pas sans doute pas, foutez le camp, dégagez, voilà. Ça c'est la liberté type Woodstock. C'est-à-dire qu'on est là, les uns contre les autres, on se sert des autres pour, comme on dit encore, prendre son pied. Voilà ce qu'est le premier type de liberté, une sorte d'individualisme échevelé parce que l'homme n'est qu'un amas de passions et qu'il faut simplement qu'il satisfasse ses instincts. Deuxième type de liberté tout aussi erronée, c'est une liberté beaucoup plus rationaliste. C'est celle qui consiste à dire, à la force de ma raison, je vais pouvoir me construire, je vais m'affranchir de tout déterminisme, c'est-à-dire de Dieu, de la loi naturelle, de ma propre nature humaine. Ça, c'est la revendication nietzschéenne, c'est la revendication sartrienne. Elle est reprise par tous les savants fous qui vous expliquent qu'à grand renfort de recherches scientifiques, on va pouvoir élaborer enfin un homme nouveau, affranchi de toute règle, affranchi de toute norme, un homme qui enfin se prend en main. Alors ça, cette vision des choses, ça aboutit malheureusement aux différents rassemblements de Nuremberg. Je ne parle pas du tribunal de Nuremberg d'après-guerre, qui juge les criminels de guerre. Je vous parle des rassemblements du Reich organisés avant la guerre. Ces rassemblements de SS, de jeunesse hitlérienne, qui, sous des bannières tout à fait évocatrices, le congrès de la liberté ou la victoire de la volonté, tu parles, vous proposez une vision de la liberté très rationaliste, très froide. Il s'agissait de la victoire de la race supérieure sur les autres races. Voyez que ces fausses conceptions de la liberté sont tout aussi dangereuses l'une que l'autre. L'homme prétend s'affranchir de toute servitude, et en réalité, à quoi va-t-il aboutir? Eh bien, il tombe dans la pire des servitudes, la servitude à l'égard de lui-même, en fait. Parce que celui qui se livre à tous les instincts ne sera jamais heureux, ne sera jamais pleinement satisfait. De jouissance en jouissance, il lui faudra toujours avoir plus. Il deviendra esclave de lui-même. Parce que l'homme qui voudra construire l'homme nouveau, celui qui se prend pour le rénovateur de la race humaine, sera obligé de rayer de la carte tout ce qui dépasse. Et même en lui-même, de rayer de la carte tout ce qui ne va pas dans ce grand projet. Vous voyez que cette liberté, en réalité, mène à la mort. Et soyons honnêtes, mes frères, est-ce que ces fausses conceptions de la liberté, nous en sommes totalement exempts? Est-ce que vraiment, nous n'avons jamais été séduits par quelques Woodstock ou par quelques Nuremberg, sous une forme light, je vous concède, mais bien réelle tout de même? La volonté d'assouvir ses passions, de se laisser aller quelque temps entre deux dimanches, entre deux messes, ce sont les vacances, ou au contraire, de vouloir tout faire à la force du poignet, de dominer cette nature, voire de la briser si vraiment elle nous résiste. Ces tentations, elles sont bien autres, mes frères. Alors, ce discours de saint Paul nous intéresse au premier chef. Saint Paul voyait bien que les chrétiens étaient tout à fait la cible de ces genres d'aspiration à de fausses libertés. Alors, évidemment, selon les modalités propres à son temps, il n'y avait pas encore ni le Reich, ni Woodstock. Mais pour les arracher à cette servitude qui se prêtait des masques de liberté, voilà qu'il leur propose ce qu'est la vraie liberté. Il veut les arracher à cette fausse liberté. Voilà ce qu'il dit: « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la crainte. » Je viens de vous le dire il y a 2 minutes. Ou encore: « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Comment faire? Et c'est saint Paul qui nous donne la réponse. Comment faire pour être enfin libre, pour satisfaire cette aspiration profonde et légitime qui habite l'homme? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, à vrai dire. Il faut tout simplement que nous nous mettions à l'école du Christ. Il faut laisser le Christ nous communiquer son esprit. Il faut nous arracher à la chair, enfin, c'est-à-dire à la conviction que nous devons jouir, à la conviction que nous sommes le meilleur conseil que nous puissions avoir et que nous n'avons aucun ordre, d'aucune norme à recevoir. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit du Christ. Le Christ est l'être le plus libre qui soit. D'abord parce qu'il est Dieu, y a-t-il être plus libre, plus souverainement libre que Dieu? Et ensuite, dans son humanité même. Songez au Seigneur qui a commencé sa vie publique par 40 jours de jeûne, l'Écriture nous dit, en s'abstenant d'eau et de pain. Il n'a rien mangé pendant 40 jours. Je crois que les moines les plus ascètes peine à imiter le Seigneur sur ce point. Le Seigneur lui-même, à chaque fois qu'on essayait de mettre la main sur lui, s'échappait. Il y a cette phrase très frappante de l'Écriture qui est récurrente, et passant au milieu d'eux, il quitta cette ville, alors qu'on venait de prendre des pierres pour le lapider. Il est souverainement libre, et il l'affirme là encore, lui-même, puisqu'il nous dit « Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne ». Vous voyez que le Christ, dans sa divinité et dans son humanité, est l'être le plus libre. On comprend dans ces conditions qu'il soit le seul à pouvoir nous fournir une vraie liberté. Sont-ils vraiment libres, tous ces publicitaires? Sont-ils vraiment libres, tous ces dictateurs de pacotille qui prétendent nous offrir la liberté? Le Christ, lui, est crédible dans la mesure où il est vraiment libre. Et que fait le Christ pour nous libérer? Il ne se contente pas, tel un maître de yoga, de nous apprendre de façon extérieure, nous face à lui, extrinsèquement, comment acquérir la liberté en 36 leçons. Il va plus loin, il nous communique son esprit, qui est un esprit libérateur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet esprit nous libère. Et saint Paul le dit dans l'Épître. Je vous invite vraiment à reprendre cette lettre, parce qu'elle est très profonde. Courte, mais très profonde. Eh bien, le Saint-Esprit nous révèle, c'est ce que nous dit saint Paul, que nous avons un Père. Le Saint-Esprit nous révèle que nous sommes enfants de Dieu. Ça paraît peu de choses, ça. Et vous me direz, c'est vraiment pas suffisant pour atterrir la liberté. Mais en fait, c'est très profond. Celui qui vit selon la chair, à force de n'écouter que son conseil, à force de vivre au gré de ses instincts et de chercher la liberté libertaire, s'affranchit de tout. Et petit à petit, il devient orphelin. Peut-être avez-vous la malchance d'être orphelin, peut-être connaissez-vous bien des orphelins, pour ma part j'en connais quelques-uns. Il y a dans le regard d'un orphelin quelque chose de brisé. Parce que l'orphelin ne sait pas d'où il vient et il peine à savoir de ce fait où il va. Voilà où en sont nos contemporains qui vivent soi-disant de liberté. En réalité, ils sont orphelins. A l'inverse, celui qui vit dans l'Esprit, celui qui vit selon le Saint-Esprit, sait, grâce à cet Esprit de vérité, qu'il est fils de Dieu. Il sait que Dieu est le Père par excellence. C'est-à-dire, pas n'importe quel Père, mais celui qui sait exactement où il va, celui qui pardonne, celui qui réconforte, celui qui encourage, qui sanctionne parfois, mais toujours pour le bien de son Fils. Vous imaginez bien que dans ces conditions, alors nous accédons à une véritable liberté. La liberté des enfants de Dieu, la liberté des fils de Dieu, c'est ce que nous dit saint Paul à de nombreuses reprises. La conscience d'une telle filiation, voilà le gage de notre vraie liberté. Quand on a un tel père, on n'a rien à craindre. Vous savez, les petits-enfants sont toujours en train de nous dire que « papa fait ci, papa fait ça, papa c'est le plus fort du monde ». Bon, et puis les années passent et le petit bouchou, qui est devenu un peu plus grand, se rend compte que papa n'est pas si capable de merveilles que cela. Il conserve beaucoup d'affection, mais il en voit les limites. Le chrétien, lui, c'est quelqu'un qui, de jour en jour, peut dire, avec toujours plus d'authenticité, « mon père c'est le plus fort du monde ». Mon Père, c'est Dieu. Vous voyez la force que nous tirons de cela, la liberté que nous tirons de cela. Et lorsqu'on est fils de Dieu, fils du Père éternel, on est également frère de Jésus-Christ. Pensez bien qu'avec un frère aîné comme cela, on n'a rien à craindre non plus. Là encore, les petits-enfants sont très contents d'avoir un grand frère un peu costaud qui les protège de tous les autres petits camarades. Nous sommes très heureux d'avoir comme maître, au milieu de ce monde, où parfois nous ne savons pas trop comment nous défaire de toutes sortes d'idéologies, de toutes sortes d'oppositions, nous sommes très heureux d'affirmer que notre grand frère, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Nous sommes ses petits frères, et il veillera sur nous quoi qu'il advienne. Cette liberté du chrétien, la liberté des enfants de Dieu, s'intéresse de l'enfant Jésus lorsqu'elle l'a découverte, a été vraiment libre. Elle était, vous le savez, jusqu'alors, victime de toutes sortes d'angoisses, de craintes. Elle était névrosée, dit-on en termes contemporains. Eh bien, la petite Thérèse a découvert un jour que le secret pour vivre sereinement, pour vivre librement, c'était de s'abandonner aux bras de celui qui était son père. Elle aimait beaucoup son père de la terre, et elle pouvait, maintenant qu'il est bien heureux, on s'en rend bien compte, et elle se rendait compte que Dieu était encore plus un père que son père de la terre. Alors Thérèse avança résolument, avec une liberté incroyable, des aspirations d'une puissance extraordinaire, parce qu'elle était profondément libre. Mes frères, je termine cette homélie en vous demandant de faire un choix. Mais pas un choix aujourd'hui, un choix de chaque jour. Soit la liberté à la petite semaine, telle que nous propose l'aimanteur de tout poil, qui en fait ne font que nous garrotter, puisque ces fausses libertés nous mènent à l'esclavage, et nous devenons esclaves de nous-mêmes, pire que tout, soit la liberté que procure l'Esprit-Saint, cette liberté qui permet de supporter jusqu'au martyr, y a-t-il plus libre qu'un martyr, et non pas ces martyrs qui se font sauter en pleine foule avec des bombes au nom de Dieu ou de qui sais-je, cette liberté des martyrs qui offrent leur mort avec amour pour la conversion de leurs bourreaux. Voyez cette souveraine liberté. Mes chers amis, je vous invite vraiment à faire comme les saints, je vous invite à rallier le maquis. Nous sommes là pour être des disons, des chevaliers, des partisans, des je ne sais quoi, de la liberté. Nous n'avons pas à nous laisser avoir par ces murmures du monde qui nous proposent de fausses libertés. Demandons la force au Saint-Esprit, demandons-lui de nous susurrer toujours à l'oreille lorsque nous menaçons de céder à toutes sortes de sirènes, encore une fois, du monde. Demandons-lui de nous susurrer à chaque fois et très fermement que nous sommes enfants de Dieu, que nous n'avons donc à craindre personne et que nous sommes vraiment libres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.